À tout à l'heure. Alors, dans quelques minutes, La Rage de Dents reçoit l'historien Hervé Quéros et le dessinateur Yannick Orveillon pour leur BD Libertat, jusqu'au dernier, qui retrace l'épopée des frères Pep et Quico Sabaté. Nés au début du XXe siècle dans une Catalogne où l'anarchisme est devenu une puissante force politique et sociale, notamment à travers la CNT, les deux frères Pep et Quico Sabaté s'engagent dans la lutte politique armée contre le soulèvement fasciste du général Franco. En 1939, refusant la défaite du camp républicain, ils s'attaquent par tous les moyens possibles au régime franquiste, expropriation, expédition punitive, évasion de prisonniers. Barcelone devient le théâtre d'une intense guérilla urbaine, animée par les groupes d'action anarchiste et que le sinistre commissaire Quintela reçoit pour mission d'éradiquer par tous les moyens avec l'aide de la Guardia Civil. Les rangs des guérilleros s'éclaircissent, mais malgré les pertes et leur isolement, les deux frères Sabaté choisissent de poursuivre la lutte jusqu'au dernier. Un récit au plus proche de la réalité, mêlant action, mémoire et réflexion sur le prix de la liberté. Alors moi, je me souviens d'avoir lu Sabaté, guérilla urbaine en Espagne. Et très bon souvenir de lecture. Et voilà, je vous encourage à rester à l'antenne et écouter nos camarades de La Rage de Dents. On va se quitter avec Nados. Et puis, en attendant de voir Nados ce soir en concert, avec beaucoup de plaisir. Allez, la semaine prochaine, nous recevons le festival Rage Sacrée. Allez, merci. Merci, salut, à la semaine prochaine.
Et si sa main assieds-toi, attends au bout du champ. D'abord, hâtez de se montrer, de déployer leurs couleurs blanches, comme pour rattraper un temps qui leur aurait échappé. Et si, dernière de l'année, ces silhouettes finalement cuivrées attendent patiemment leur dernière danse. Les fossés les font valser jusqu'à les serrer en javel. Elles semblent encore avoir pied, encore. Et c'est un peu séché au vent, battu puis secoué par le diable volant. Seulement, c'est les saisons avaient encore une vie à elles. Si chaque temps gardait sa mesure, chaque vent avait sa voix, et si l'automne avait son cri, et si ça nous assieds-toi, attends au bout du champ.
Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier les rues de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le temps, cela peut arriver au prophète, monsieur le président, madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins casser les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur, et c'est le mot est faible, de recevoir Hervé Kairos. Hervé, bonjour.
Bonjour.
Et Yannick Orveillon.
Bonjour.
Pour une bande dessinée, on ne dit pas roman graphique, on dit bande dessinée ?
On dit un peu les deux. Techniquement, comme c'est un gros volume et qu'il y a beaucoup de choses écrites, on est dans la catégorie roman graphique.
D'accord.
Mais nous, on a eu l'impression de faire une BD quand même.
Bon, une BD pour Libertat, jusqu'au dernier, publié chez Marabule. Hervé, Yannick, tout d'abord, merci. Au nom de tous les libertaires que je connais et au nom de tous ceux qui vont nous écouter, merci pour la BD et pour le roman graphique, peu importe. Vous avez rendu hommage aux idées libertaires, comme rarement ça a été possible de faire dans une BD.
Merci.
Alors, on va commencer par Merci expliquer, beaucoup. Vous présenter, et on va venir au cœur du sujet. Hervé, vous avez vécu à Barcelone ?
Oui, moi j'ai passé mon enfance à Barcelone, jusqu'à mes 10-11 ans, à peu près.
Après la mort de Franco.
Juste après, on est arrivé avec mes parents juste après la mort de Franco en 76. Et mon père était en poste là-bas, et donc j'ai fait la maternelle et le primaire là-bas, et j'ai grandi à Barcelone en commençant à reparler le catalan, puisque tout le monde parlait le catalan que j'ai oublié depuis. Hein. Mais on a appris l'espagnol et le castillan, et quasiment ma langue maternelle, puisque c'est là-bas que j'ai appris à parler, quoi.
Vous êtes historien ?
Je suis historien de formation. J'ai fait mes études à l'université Paris 12 à Créteil jusqu'au DEA. J'ai interrompu ensuite pour devenir journaliste. Et à l'époque de mes études en histoire, j'ai beaucoup travaillé sur le développement de l'armée aérienne. dans l'entre-deux-guerres, ce qui m'a évidemment conduit à travailler beaucoup sur la guerre d'Espagne.
Alors, on dit plutôt révolution espagnole, parce que c'est pas une guerre.
C'est une guerre.
Révolution.
Ouais.
Tout, et ça, vous le montrez bien dans la BD. Ouais. C'est une révolution.
Il y a eu cet aspect-là, voilà. Et ce qui m'a rapproché de la révolution d'Espagne, c'est aussi que mon grand-père avait été dans les brigades internationales.
Ah oui.
Et je peux pas vous en dire plus, parce qu'il s'est toujours refusé à en parler ou à l'évoquer. Pour lui, ça a été on sait qu'il y a eu un traumatisme, on n'a jamais su vraiment pourquoi. Il en parlait très très peu. Et donc voilà, entre les études, l'histoire personnelle et mon enfance à Barcelone, on a une triangulation qui m'amenait forcément, en plus de mes convictions personnelles, à parler de l'anarchisme et de la manière dont les libertaires avaient continué à lutter jusqu'au bout, jusqu'au dernier, contre Franco.
Alors pourquoi avoir choisi les frères Sabaté ? Parce que très peu de gens, à part dans le grand public, très peu de gens connaissent l'histoire des frères Sabaté.
Ils sont, on peut dire, quasiment pas connus en France, effectivement, à part dans certains milieux. Les frères Sabaté, il y a d'autres guérilleros, effectivement, qui sont emblématiques. Les frères Sabaté, ça permettait d'avoir la durée.
Voilà.
Puisque,
j'y ai pensé.
Voilà, ils ont, là où beaucoup de libertaires se sont fait tuer, ou ont abandonné la lutte, ou ont été emprisonnés, eux, ils ont réussi à continuer jusqu'en 1960.
Mm.
Et donc, ça permettait, et en plus, ils avaient commencé très tôt. Mm. Le frère aîné Sabaté, dès ses 15 ans, il commençait déjà
à
travailler
pour
la CNT, et à faire le coup, à braquer, etc. Donc ça permettait d'être dans la durée, d'aller vraiment de Primo de Rivera jusqu'à la victoire définitive, on va dire, du franquisme, quand les derniers guérilleros tombent dans les Pyrénées. Ça permettait de donner cette durée, parce qu'effectivement, on aurait pu faire un épisode axé sur un autre guérillero, et puis qui n'aurait fait que 1945-1949, par exemple. Mm-hmm. Mais là, ça permettait vraiment de retracer, de s'inscrire dans la durée, et puis de rendre hommage, pas uniquement aux frères Sabaté, mais à tous ceux qui ont lutté à leur côté, parce que les groupes de combat, bon, sur la fin, ils étaient de moins en moins nombreux, évidemment, mais au début, les anarchistes étaient encore très nombreux, et les groupes de combat étaient très nombreux aussi.
Voilà. Alors, vous dites dans les dialogues, je vais donner la parole ensuite à Yannick, vous dites précisément, à un moment donné, dans un dialogue, page 4, je retiens, la révolution, c'était un vent libertaire qui a fait rêver toute une population et bouleverser des vies. Mmh. C'est page 44.
Mmh. 44.
Voilà. Donc, et le mot anarchie arrive très tôt, page 9.
Ouais.
Donc ça fait du bien. Alors, comment, avec toutes ces idées, tout ce passif, ce passé, vous avez réussi à convaincre Yannick d'entrer dans l'aventure ? Parce que Yannick a un parcours différent.
Oui, tout à fait différent. Alors, convaincre Yannick, c'est ce qui a été le plus facile dans toute l'élaboration de l'histoire. Il a été partant immédiatement. Ce qui a été compliqué, ce n'est d'ailleurs dû qu'au hasard, c'était d'arriver jusqu'à Yannick. Cette histoire a été écrite il y a assez longtemps et est restée bloquée assez longtemps à cause du fait que je n'avais pas de dessinateur. Et que donc j'étais confronté à des éditeurs qui me disaient très bien, mais où est l'univers graphique ? Qu'est-ce que vous proposez ? Et là, il y avait un petit blocage. Alors je pensais naïvement, moi au début, qu'on me proposerait éventuellement un dessinateur ou qu'on me mettrait en contact, mais non. Et le contact s'est fait totalement par hasard au cours d'un covoiturage où on m'a parlé de Yannick, qui est un dessinateur un petit peu engagé, avec des idées que nous partagions. Donc on est entré en contact. C'était pas la période la plus facile de ma vie. J'ai mis du temps avant de contacter Yannick. Mais en tout cas, il était partant tout de suite. Il a fait des dessins immédiatement qui m'ont plu à moi et qui ont plu à Elios, un personnage dont on parlera tout à l'heure, qui a son importance aussi dans l'histoire.
Alors, Yannick, Hervé te contacte.
Ouais.
Comment il t'explique cette idée absolument révolutionnaire, de faire une BD sur deux hommes qui ont fait trembler jusqu'à Franco, parce que c'est le cas.
Bien sûr.
Eh ben, je sais plus exactement, c'était un coup de fil. Moi, je connaissais pas les frères Sabaté en tant que tels. La Révolution espagnole, c'était déjà quelque chose qui me parlait beaucoup. T'as pas eu besoin de m'expliquer 36 fois, tu m'as brossé la carrière un peu des deux frangins, et j'étais emballé. C'était un peu une histoire que Je rêvais qu'on me propose un scénario comme ça.
Ah.
Donc, c'était, par contre, c'était un peu effrayant parce que moi, je suis pas tout jeune, mais je suis un jeune dessinateur. Ça fait pas longtemps que je fais de la BD. Donc, c'était, par contre, c'était un peu effrayant en termes de somme de travail à accomplir et de difficultés. Mais je me suis dit, bah, tant pis.
Je me lance.
Ouais, on verra plus tard. Donc, je me suis lancé.
Alors, présente ton parcours.
Mon parcours, je dessine depuis que je suis enfant, mais arrivé au bac, arrivé un peu à l'âge adulte, bah, j'ai arrêté de dessiner. Et après, j'ai fait une licence d'histoire, j'ai fait une licence de cinéma, enfin, que j'ai pas vraiment terminé parce que j'ai arrêté d'aller en cours comme beaucoup d'étudiants. Et après, j'ai fait plein de courts-métrages pendant 10-15 ans, voilà, en associatif, en amateur, avec plein de copains, de structures. Et c'était très chouette. Et puis, en alternant toujours des petits boulots à côté, de l'intérim, des choses comme ça. Quand tu m'as contacté, Hervé, je faisais du ménage à domicile. Voilà. Et du coup, bah, j'ai abandonné les courts-métrages parce que, en termes d'énergie, c'était compliqué, mais j'étais un peu frustré.
Chronophage, peut-être.
Comment ?
Chronophage.
Chronophage. Et puis, j'avais pas vraiment. C'était pas rémunérateur du tout, donc c'était un peu compliqué. Mais j'étais un peu frustré sur le fait de raconter des histoires et du coup j'ai retenté le coup en me souvenant qu'il y a quelques années, enfin il y a longtemps, je dessinais, donc je m'y suis remis petit à petit et j'ai lancé un projet avec un copain qui était plus modeste, c'était une BD humoristique avec des dessins plus minimalistes, mais qui m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Et du coup Hervé est arrivé dans la foulée avec sa proposition et j'ai sauté dessus.
Germaine des Acer, les frères d'acier. Alors, comment on commence la première planche sur les frères d'acier ? Parce qu'elle est incroyable. Alors déjà, je vais présenter aux auditeurs qui ne l'ont pas dans la main. Libertat, avec le A de l'anarchie à la place du A, jusqu'au dernier. Ça déjà, ça donne envie. Et à l'intérieur, des cartouches avec les principaux figurants de la BD. Et surtout, une phrase à l'intérieur. Dans l'enfer de Barcelone, la violence était la seule forme possible d'opposition. C'est ce qui la rendait légitime. Waouh ! Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, le cadre est posé.
J'ai trouvé que cette phrase posait très bien le cadre, effectivement, et posait la question de la violence et de la légitimité de la violence. Est-ce que la violence d'État est la seule violence légitime quand l'État est un État fasciste ? C'est une question qui se pose, et quand l'État est arrivé par un coup d'État, encore plus. Donc oui, la violence, elle est partout, dans tout le récit, dans les plus de 200 pages du récit. Le régime franquiste était très violent, la société était très violente, parce qu'avant Franco, c'était déjà les grévistes contre les syndicats patronaux, donc la violence était à tous les étages. Donc oui, ça me semblait important, effectivement, de mettre dans l'ambiance directement avec cette phrase-là, qui est extraite d'une des pages de l'aventure ensuite.
D'accord, donc tu présentes l'ambiance du temps de Primo de Rivera, avec la lutte de Durruti. Donc, le fait que la police, le clergé, il y a une phrase, je vais la lire. La police, le clergé, la guardia civile, on avait l'impression qu'il s'agissait d'une puissance occupante que de l'autorité publique. Tout est dit.
Ça reflète ce qu'était la société espagnole à l'époque, effectivement.
Et à un moment donné, tu fais dire au personnage, il te prend l'envie d'accélérer la cadence. Et on présente historiquement l'évolution vers ce qui va arriver, ce qui va donner l'arrivée des frères Sabaté. Donc les FAI, la République espagnole qui est instaurée après la mort de Primo de Rivera, l'exil du roi, et surtout l'antagonisme avec les communistes. Qui est pas. J'ai pas le sentiment que. On en parle tant que ça dans la Révolution espagnole. On en parle plus tard, quand les brigades internationales arrivent, et quand il y a la guerre, le front et tout le reste, mais dès le départ, il y avait un antagonisme. Et les frères Sabaté, ils étaient libertaires, et ils étaient déjà contre les communistes.
Anarcho-syndicalistes, voilà. C'est pas communiste.
Ouais. Tout à fait. Donc, vraiment, cet antagonisme va expliquer pourquoi, quelque part, Franco a bénéficié d'une aide incroyable, et on ne comprend pas qu'avec des gens comme les frères Sabaté et leur entourage, il n'ait pas réussi à le renverser ou à empêcher son arrivée. Mais c'est parce qu'il y avait des conditions géopolitiques telles, et notamment par l'opposition avec les communistes, qui ont permis à Franco de se maintenir au pouvoir. Et à un moment donné, d'ailleurs dans la BD, vous dites, il a bénéficié d'un plan Marshall à lui tout seul.
Plus tard, oui, effectivement. Voilà. Toujours dans ce cadre que les pays occidentaux ne basculent pas, surtout pas dans le communisme, effectivement. Franco est rentré dans le rang, c'est pas le mot, il est rentré dans le concert des nations, parce que les nations occidentales ont décidé que tout d'un coup il était devenu fréquentable.
Oui.
Et effectivement, à partir de là, il fallait l'aider. Alors, le plan Marshall a servi à l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Franco en a été écarté. À partir du moment où il était reconnu par l'ONU,
il a fait son discours,
les États-Unis ont implanté des bases, ont aidé.
Avec la CIA qui aidait à torturer les anarchistes.
La CIA a bien sûr formé tous les types de la brigade spéciale et politique. Brigade politique et sociale, pardon. Ont été formés par la CIA, en particulier Paolo Borghello, qui est un des personnages qu'on met en scène, et qui lui va gérer tout ce qui est l'information, l'enseignement, donc qui s'obtient par toutes les méthodes qu'on peut imaginer.
Oui.
Donc, Franco a bénéficié de beaucoup d'aide et beaucoup de divisions en face dans le camp. Quand les communistes se débarrassent des anarchistes en mai 37, Franco est bien content parce que...
Ils font le sale boulot.
Oui, ils font le sale boulot, effectivement.
Et parce que les anarchistes se sont chargés de priver Franco de tout soutien sur tout le territoire, avant tout le monde, bien avant les communistes.
Ouais.
Et ça, c'est dit... Page 21, en parlant de la journée du 18 juillet 1936.
La CNT à l'époque, la Confédération Nationale des Travailleurs, c'est 1,5 million, on a vu, le nombre d'adhérents,
c'est 1,5 million
d'adhérents. Donc,
tout à fait.
Donc ils tiennent, l'outil de production est vraiment tenu par les libertaires.
Oui, alors quelqu'un dont on parle peu, mais qui est Salvatore Seguì. Qui a fait la fameuse grève qui a permis de mettre à bas tout l'appareil productif et de paralyser la ville de Barcelone et toute l'Espagne ensuite.
Ouais.
Et grâce à ça, cette fameuse grève de la Canadienne, ils ont obtenu la journée des 8 heures avant 1936. Voilà, ils étaient le premier pays à l'obtenir, la journée des 8 heures. Et des conditions salariales incroyables. C'est inimaginable.
Ouais. Ouais, les avancées étaient grandes, et même plus tard ça a continué avec la Seconde République, avec le droit de vote aux femmes, etc.
Tout à fait.
Donc il y a eu beaucoup d'avancées en Espagne à ce moment-là. Je rebondis un peu sur ce que disait Yannick tout à l'heure, pour évoquer la BD, parce qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup, on en parle un petit peu dans le carnet, pour resituer les choses dans le carnet historique de la fin, pardon.
Oui, tout à fait, j'allais y venir.
Ce que dit pas Yannick, au moment où je le contacte, moi je lui parle d'un scénario qui à l'époque fait quasiment 300 pages.
Oui.
300 pages.
Que je vais moi-même réduire un petit peu parce que je comprends bien qu'en face les éditeurs ils
sont frileux.
300 pages, et au moment où on signe avec Marabulle, Marabulle me demande à nouveau de réduire encore de 50 pages. On est à 219 pages maintenant. Ce qui fait qu'effectivement il y a un niveau de détail qu'il a fallu que je redescende un petit peu.
Concentré.
Voilà, recentrer. Et cette première partie dont on est en train de parler. Sur 25-30 pages, il a fallu résumer ce qu'était la société espagnole à ce moment-là, les différents tenants aboutissants, pourquoi les anarchistes, pourquoi est-ce qu'ils étaient majoritaires là, quel était le rôle des communistes, etc. Donc on n'a pas voulu non plus charger avec beaucoup de noms, de changements de gouvernement ou autre, on a voulu aller à l'essentiel et essayer de montrer ce que pouvait être le chemin des anarchistes, voilà. Donc on parle de Durruti évidemment parce que lui a été très important, voilà. Mais voilà, on fait pas intervenir Largo Caballero ou Federica Monsoni plus que nécessaire parce qu'on n'a pas envie de brouiller les pistes. Le but, ce qu'on a tout de suite compris avec Yannick dès le début, c'est qu'on fait une évocation. On parle de ça à des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes. Et il n'est pas question de refaire un livre d'histoire. C'était pas ce qu'on cherchait. Ce qu'on voulait, c'était faire connaître
toute cette histoire,
la lutte.
Faire
une belle évocation plutôt qu'une reconstitution ultra précise. Libre à ceux à qui ça plaît ensuite maintenant d'aller dans des points qui existent déjà.
Oui, la recension est bien faite parce que à Publico, notre librairie chérie, 145 rue Amelot, il y a tous les livres sur les frères Sabaté.
Ouais.
Et votre BD est en trône en majesté. Parce que le jeune public qui voudrait rentrer, pas forcément dans des livres comme Hommage à la Catalogne de Orwell ou bien Abel Paz, 1936, ouais. La BD, c'est formidable.
Ah oui. Là, effectivement, et ça, on revient à ce qu'on disait. On a 30 ans d'histoire, plus de 30 ans d'histoire de l'Espagne qui est évoquée là.
Ouais. Alors, les dessins des protagonistes en première partie, on rentre de plein pied avec ces dessins dans la saga, tout de suite. Dès qu'on les voit, on sent tout de suite que ça va être sanglant. Donc, le texte, et la dédicace à Hélios, le poète, je voudrais que tu vous présentiez Hélios. Qui était-ce?
Hélios Sabaté Bélien est le fils de Pep Sabaté, un des deux frères Sabaté que je mets en scène, et dont j'ai retrouvé la trace au cours de mon enquête, parce que quand j'ai commencé mon enquête, j'avais pas grand chose à me mettre sous la dent. J'ai commencé par le cimetière où était enterrée Emilia, la femme de Pep. Et j'ai réussi avec les contacts, avec les gens sur place qui avaient suivi l'enterrement et qui se souvenaient, à trouver le téléphone d'Hélios Sabaté. Donc je savais pas, il est né en 49, je savais pas ce qu'il faisait, s'il était vivant, pas vivant, s'il voulait en parler ou quoi que ce soit. Je l'ai contacté, il a été partant sur l'histoire tout de suite, il a relu avec moi le scénario, il m'a porté beaucoup de ses souvenirs. On se retrouvait dans des cafés autour de Montparnasse, ça a duré des années, voilà, on se voyait 3-4 fois par an, régulièrement, à parler du scénario, à évoquer l'anarchie et tout ça. Il était assez malheureux aussi de voir que les éditeurs, sans dessin, ils ne prenaient pas. Ça s'est terminé de manière un petit peu abrupte, parce qu'il a pu voir les premiers dessins et les premières planches qu'avait fait Yannick, et je l'ai appelé, je lui ai dit, là, ça y est, vraiment, je pense que c'est bon, parce que on désespérait un petit peu, mais voilà, on a trouvé un dessinateur, on va se lancer, on n'a pas encore d'éditeur, mais je savais qu'on y allait avec un dossier solide. Et Hélios a vu les dessins, il a dit, ouais, effectivement, c'est très bien. C'est même lui qui a fait une remarque, parce que c'est vrai que, pour l'anecdote, Yannick, au début, comme j'avais dit, c'est l'histoire des deux frangins Sabaté, il avait fait deux personnages qui se ressemblaient, qui avaient des traits communs. Et Hélios, et moi aussi d'ailleurs, enfin, on a le tilté parce qu'on avait vu plus de documentaires photos, Hélios a tout de suite dit, non mais les deux frangins, ils étaient très différents. Lui, il était grand, il était solaire, lui, il était petit, il était ténébreux. C'est très différent, il faut les faire différemment. Et c'est vrai que sur les premiers essais graphiques que tu as, on a deux frangins qui se ressemblent, et après, t'as changé. Donc Hélios a eu sa petite importance pour le dessin, et pour le scénario, puisqu'il m'a raconté des souvenirs, des choses que je mets en scène dans la BD, que lui seul pouvait connaître. Et malheureusement, il a été emporté assez rapidement par un cancer du foie.
Ah.
Et en quelques semaines, il est décédé, et donc il n'a pas pu voir le résultat final.
Mais bon,
il savait que c'était en route, que les dessinateurs travaillaient, il a été informé qu'on avait trouvé l'éditeur et tout ça. C'est juste que le jour où on a vu se revoir, il devait normalement me donner des photos supplémentaires pour qu'on ait un fond graphique ou quelque chose. Bon, voilà, il est malheureusement parti, donc ça nous semblait normal de dédier ce volume à sa mémoire, parce que c'est capital ce qu'il nous a transmis avant. Quoi.
Bon, nous allons faire une pause, Yannick, Hervé, et nous allons revenir en deuxième partie sur le contenu de la BD proprement dit. Thank you. Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Yannick Orveillon, ça y est, je l'ai bien dit,
pas de souci.
Et Hervé Kéros pour Libertat jusqu'au dernier, la BD sur les frères Sabaté. Yannick, tu as deux palettes de couleurs. Selon qu'on soit en France ou en Espagne, c'est pas les mêmes palettes. Pourquoi ?
Alors du coup, les couleurs, c'est Robin qui est sur la couverture qui les a fait, celui le coloriste.
Oui.
Et en discutant avec lui, dès le départ, l'idée c'était de ne pas faire des couleurs qui soient naturalistes, le ciel bleu, l'herbe verte, mais de servir de la couleur comme outil narratif et d'ambiance.
Ça marche très bien, ça se voit
tout
de suite.
Notamment sur une bande dessinée aussi conséquente, qui fait quand même plus de 200 pages. La première version d'ailleurs, quand on discutait avec Hervé, l'idée c'était de faire en noir et blanc la bande dessinée. Mais assez rapidement, quand même, moi je trouvais que c'était, pour le lecteur, que ça aurait été vraiment dense et on gagnait en lisibilité et en facilité de lecture, de mettre de la couleur. Mmh. Du coup, avec Robin, on a discuté effectivement d'avoir plutôt des palettes de couleurs par ambiance, par lieu, par scène, et de pouvoir caractériser qu'elle soit dramatique sur une scène qui va être un peu dramatique, que ça serve d'outil de lecture.
Voilà. Et ça marche très bien. Alors, notamment sur la scène de la retirada, Hervé, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est que la retirada.
Alors, c'est le moment où Franco arrive dans Barcelone, donc la dernière ville espagnole tombe. Et tous ceux qui continuent à lutter, qui s'étaient réfugiés à Barcelone sur le front catalan, vont passer les Pyrénées. Donc on parle de 500 000 personnes qui, quelques jours, vont franchir le col de la Varjols et arriver en France. En France, on va ouvrir la frontière, pas tout de suite.
Non.
On va attendre un petit peu. Il y aura ensuite uniquement les femmes qui passeront. Les hommes passeront, je crois, deux jours ou trois jours plus tard. Il faudra attendre un petit peu. Et puis, comme il y a beaucoup de rouges dans le rang de ces hommes qui passent, beaucoup d'anarchistes, communistes, libertaires, tout ce qu'on veut, ils vont être rapidement aiguillés vers des camps, sur la plage directement à Argelès, sous la garde des soldats. ou Auvernais d'Ariège, là où était par exemple Kiko Sabaté. Oui.
Tout à fait. Alors, il y a une pagination, je me suis dit, ils l'ont fait exprès, c'est pas possible. La guerre de France, avec cette phrase, quand les Allemands ont attaqué, leur gouvernement s'est effondré plus vite que le nôtre. Mmh. Ça, c'est par rapport aux Français qui se sont bien gardés d'aider suffisamment la Révolution espagnole. C'est page 40. Je me suis dit, ils l'ont fait exprès, c'est pas vrai. De même que il y a une page, page 44, c'est la phrase sur les libertaires, le vent libertaire, 44, la libération. Je me suis dit, ils l'ont fait exprès. Non, c'est pas...
On pourrait vous dire qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça, mais non, là, effectivement, c'est le hasard de la pagination.
Mais c'est extraordinaire.
D'autant que nous, quand on a travaillé, on était sur les planches numéro 1, on n'avait pas les... Oui, on n'arrivait pas au numéro 2, c'est pas la pagination finale de l'ouvrage. Donc non, c'est un hasard.
Vous êtes rendu compte quand même, quand vous avez eu l'ouvrage entre les mains?
Non, vous nous l'apprenez.
Oui, là, vous nous l'apprenez. J'ai pas fait attention du tout à...
Ah mais d'ailleurs, j'ai même marqué dans mon brouillon, pagination, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on va leur poser? Ah non, mais...
Et le hasard peut aussi faire
Ah mais chose, oui, hein, c'est incroyable.
Dans toute création, il y a une part qui est du hasard.
Ah mais oui. Ah mais ça, c'est incroyable. Ah celle-là, je la raconterai. La preuve. Bien. Donc, 30 000 Espagnols étaient dans la deuxième DB, le 25 août 44, quand la 9e compagnie entre dans Paris. Sur la Nueve, il y avait 160 hommes, 146 Espagnols, avec comme nom, et c'est bien de le rappeler, des noms comme Guernica, Teruel, Guadalajara.
Voilà, tous les alfraques, en fait, de la 9e. Alors, c'est pas quelque chose, je voulais le rappeler évidemment pour montrer l'importance des Espagnols. C'est pas quelque chose sur quoi je me suis attardé non plus, parce qu'il y a l'excellent ouvrage de Pablo Roca sur la
Nueve
qui est sorti il y a quelques années, qui reprend tout ça en détail. Donc moi je me suis contenté, voilà, en bon historien, de mettre quelques chiffres et quelques images pour faire avancer le récit.
Mais les images de Yannick sont très bien.
Tout à fait. Il a très bien servi l'histoire tout au long, Yannick.
C'est prodigieux. Votre duo. Votre trio, puisqu'il y a la couleur de Robin, c'est une alchimie, c'est pas possible.
Sans Robin, on n'y arrivait pas, parce que moi j'étais capable de donner des grands axes sur on veut que la couleur participe à l'ambiance, comme disait Yannick. Mais après, moi je ne suis pas capable, je ne suis pas assez fort en couleur pour dire que là il faudrait ceci ou cela, marier tel teint ou tel autre, je ne sais pas, il suffit de voir comment je m'habille.
Je suis daltonien.
Et Yannick est daltonien. Donc il nous fallait absolument un coloriste, et il a très bien compris ce qu'on voulait faire, et il a été d'accord avec nous, on s'est bien entendu, et vraiment très heureux de ce qu'il a fait.
Dans la postface, il vous fait un hommage. En plus, il révèle qu'il a eu un bébé pendant ça a été un accouchement, cet ouvrage.
Bien.
Alors, vous faites dire au personnage, c'est Franco et l'armée qui s'étaient insurgés contre la République et avaient gagné grâce à l'Église, à Hitler et à Mussolini. La lutte des anarchistes est celle du droit, même si leur méthode était celle des hors-la-loi. Page 49. Oui. 49. Oui. Une année emblématique.
Oui, c'est emblématique.
Ouais. C'est, je me dis, 49. Non, mais c'est pas vrai. Je les ai notés. Et vous me dites que c'est pas intentionnel.
Non, c'est pas intentionnel.
Non, non.
Ah ben c'est ça l'alchimie. Ouais. Bien. Revenons sur cette phrase.
Il y a deux moments dans le roman graphique où Kiko rappelle ça, à ce moment-là, et au moment de sa rupture plus tard avec la CNT. Et effectivement, c'est important de le rappeler parce que les frères Sabaté, comme tous les derniers groupes d'action, ont souvent été non plus appelés des guerrieros, mais des bandoleros, ce qui n'est pas pareil. Vous n'allez plus exproprier des banques ou des riches pour vous approprier l'argent qui doit revenir aux masses travailleuses, vous allez braquer des banques. C'est
tout à fait
la même chose. Et donc, moi, ça me semblait important, effectivement, de bien rappeler, de bien marteler, c'est pour ça que je le fais deux fois à deux occasions, que le hors-la-loi, c'était pas eux.
Non.
Ils ont voulu faire en sorte que se maintienne ce qui avait été dans les urnes de la Seconde République, et non pas ce qui avait été un coup d'État de Franco. C'était lui, le hors-la-loi.
Oui.
Il a cessé d'être hors la loi, comme je le disais tout à l'heure, par la force des choses, parce qu'on l'a reconnu, on lui a fait une place à l'ONU, etc.
Oui.
Donc on a fini par s'habituer à lui.
Oui, mais, hélas.
Mais à la base, Franco, c'est un hors la loi, c'est un dictateur qui s'est imposé par la force.
Tout à fait, comme tous les dictateurs.
Comme tous les dictateurs, oui.
Et dans la construction, moi je m'étais rendu compte aussi, pendant qu'on était en train de le faire, on a un peu parlé de ces rappels-là, parce qu'en en causant autour de moi, les gens qui ne connaissent pas la Révolution espagnole du tout... Mmh. Quand on parle de révolution espagnole, on a l'impression que c'est justement les anarchistes qui lancent, qui renversent le gouvernement, alors que c'est Franco.
Mais
qui...
oui.
Et du coup, c'était de rappeler un petit peu, comment dire...
Remettre l'église au centre
ouais,
du
c'est
village.
Ça. Si je peux après, les anarchistes voulaient quand même faire la révolution, de toute façon, mais,
oui.
Mais que pas oublier que, enfin, que c'était pas un pouvoir légitime non plus, en fait,
non.
Le pouvoir de Franco. Ouais.
Alors, pourquoi on fait les braquages, donc les expropriations, page 14, c'est pour imprimer les journaux, faire vivre les grévistes et les familles des personnes et acheter d'autres armes, surtout. On avait besoin d'autres armes.
Bien sûr, parce qu'eux n'ont pas été aidés ensuite, plus tard, par Mussolini ou par Hitler. Donc oui, il fallait à tout prix se fournir des armes, acheter des munitions, des planques, donc acheter quatre murs pour planquer payer quelqu'un pour qu'il planque dans sa cave des armes. Il y avait énormément de familles qui n'avaient plus de source de revenus, femmes et orphelins parce que les parents tués par des syndicats patronaux ou morts à la guerre ou emprisonnés pour 10 ans ou 20 ans. Donc il fallait subvenir à leurs besoins. Donc l'argent, c'était la manne. Et au bout d'un moment, effectivement, ils allaient le prendre là où il était. Mais
quelque part, il faudrait peut-être qu'on le fasse encore aujourd'hui. Quand on apprend qu'il y a quelque chose comme 13 000 ultra-riches qui ne payent pas d'impôts.
Qui n'ont pas payé d'impôts, exactement.
Ouais. C'est toujours d'actualité. Hein.
Ah, ouais. Il y a beaucoup de choses dans notre roman graphique qu'on trouve qui sont encore d'actualité ou qui peuvent résonner aujourd'hui.
Ouais. C'est pour ça que d'être la propriété, que la maison d'édition soit la propriété d'un ultra-riche, ça nous a fait sourire.
Voilà. On est pris dans les rapports de production capitaliste.
Voilà. Mais en tout cas, merci pour cette saga. Elle est magnifiquement écrite, magnifiquement illustrée, magnifiquement coloriée. C'est un hymne à la liberté et à l'espoir. Et ça redonne envie de repartir au combat.
Ouais, on est très touchés, merci.
Ouais. Non, moi je dis ce que je pense et ce que pensent beaucoup. D'ailleurs, nous avons appris que l'après-midi que vous avez passé à la librairie Publico a été relayé par les associations des Républicains.
D'accord,
ok. Voilà. Okay. Parce que vous étiez à la Flibuste et à Publico,
oui.
Ils l'ont mis sur leur site
pour
que les gens viennent pour les séances de dédicace. Oui,
okay.
L'association du 24 août et notre association qui s'occupe des Républicains ont mis des informations sur la BD.
D'accord.
Vraiment, votre travail est relayé par tous ces héritiers de ce mouvement de façon extraordinaire. Pour eux, ça a été du pain béni. Parce qu'on peut offrir la BD à son petit-fils ou à sa petite-fille et commencer à expliquer ce qu'a fait le grand-père.
Oui.
Surtout s'il n'a pas parlé, comme le vôtre.
Ouais. Et bien sûr, oui.
Voilà.
Ça nous semblait... c'est aussi pour ça, moi, qu'à un moment donné, le projet a mis beaucoup de temps en gestation. Et c'est vrai que ma démarche d'historien, au début, j'aurais pu écrire un livre d'histoire là-dessus.
Un de plus.
Mais ça aurait été un de plus. Mm. Et je me suis dit, j'aurais pas forcément capté autant l'attention d'un public aussi large.
Oui.
La bande dessinée permet effectivement, je vais le mettre entre guillemets, de vulgariser, mais de rendre accessible en tout cas à beaucoup plus de gens. Parce que ce qui est important, c'est qu'en histoire, pour l'instant, on peut pas écrire beaucoup plus que ce qui a été écrit. Beaucoup
surtout de la part d'Abel. Abel Paz a fait l'essentiel du travail.
Ouais, ouais. Tout ce qui est Télé Sola, dont le témoignage des guerrilleros aussi. Alors, il y aura peut-être d'autres choses à écrire au fur et à mesure que des archives vont s'ouvrir du côté de l'Espagne.
Ah oui, mais... alors on a appris qu'il y a des photographies qui sortent sur les plateformes de vente en ligne.
Ouais.
Donc, les gens commencent à les acheter pour enrichir le débat.
Ouais,
donc, et par exemple, on a appris que les archives sur les communistes qui ont été tués par les nazis en Grèce sont à vendre.
Ouais.
Donc, ils ont fait préemption pour que l'histoire soit dite.
Ouais. Okay. Ouais, les lois sur la mémoire en Espagne vont permettre effectivement d'en savoir plus. Mais pour en savoir de la, le côté humain de ce qu'a été cette lutte, c'est ce qu'on a essayé de faire valoir, ça, ça va devenir strictement impossible.
Ah.
Ils sont tous morts très jeunes, ils ont tous vécu dans la clandestinité, aucun n'a laissé de mémoire. Donc ça, le travail de Télès Sola, et on le remercie aussi dans le, dans le livre, le travail de Télès Sola était capital. Lui, il a arrêté de travailler après la disparition des derniers guerreros pour recueillir tous les témoignages possibles. Donc le boulot des historiens aujourd'hui, c'est éventuellement de les vérifier, de les recouper. C'est ce que j'ai fait en cherchant dans beaucoup de journaux.
Oui.
Mais on n'aura plus cette voie-là. Ils sont tous en train de disparaître. Il y a Busquets qui est encore vivante, qui a 95 ans maintenant.
C'est la fille dernier, de M. Durruti est morte il y a un mois de cela.
C'est ça, tous les témoins disparaissent. Donc Kiko Sabaté a deux filles encore, je crois, qui sont assez âgées, qui, la dernière fois, vivaient encore en Espagne. Mais voilà, tous ces gens-là disparaissent petit à petit. Et donc le côté humain de cette histoire, tout ce qu'a pu me transmettre Elios, comment il vivait, comment il se soignait, qu'est-ce qu'il pensait, à quoi, enfin, c'est quelque chose qu'on n'aura plus et que dans un bouquin d'histoire, j'aurais pas pu faire transparaître autant qu'avec le soutien du dessin d'Yannick, des couleurs et tout ça.
D'accord. Donc, alors, le bilan de Novatos, page 57. Quand on dit que les anarchistes ont été plus tués par cette sinistre brigade politique et sociale que sur les fronts de la guerre, ça fait froid dans le dos.
Ouais.
Mais c'est vrai.
J'ai pas compté précisément. Donc, mais dans la c'est-à-dire que la répression a été telle, 47, 48, 49, que voilà, il n'y a pas besoin de faire les comptes pour se rendre compte.
On déterre des charniers jusqu'à présent.
Voilà, c'est ça. Les fosses communes commencent à être identifiées et ouvertes depuis justement les lois sur la mémoire. Et donc, on va en apprendre de plus en plus. Les archives, il faudra peut-être quelques temps que les archives de la Guardia Civile ou autres soient ouvertes sur cette période. Mais oui, on va en découvrir énormément. Ça a été des centaines, des milliers. Et puis, ce qu'on a appelé la terreur blanche.
Oui.
Il faut bien voir que bon, c'est terrible ce qu'a fait Hitler. Il l'a fait sur 5 ans. Franco, c'est terrible. Il l'a fait sur 30 ans.
Donc, ouais.
Il n'a pas fait un génocide à la même échelle, hein, mais il a quand même tué régulièrement, tous les jours.
Pendant
30 ans. Où il était là. Donc peut-être un peu moins les 29e et 30e années qu'au tout début. Mais ça fait quand même un bilan qui est très très lourd au final. Quoi.
Ouais. Et la société espagnole, est-ce qu'elle est prête? Parce que quand on voit comment elle vote à l'heure actuelle, surtout les jeunes, est-ce qu'elle est prête à avoir toute la vérité? Comment, si votre éditeur arrive à la faire traduire en espagnol, est-ce qu'elle sera bien reçue, la BD?
Alors, moi, de ce que je peux vous dire, quand j'ai fait mon enquête terrain, j'ai été à la fois en France, où c'était assez difficile de trouver quelqu'un qui pouvait parler. Quand je suis passé du côté espagnol, dans les endroits, par exemple, où je cherchais la Fuente del Oso, un lieu totalement improbable où ils se réunissaient, globalement, on me répondait, non, on ne voit pas du tout de quoi vous parlez. Quoi. Mais quand j'expliquais un petit peu pour dire, c'est un endroit où se réunissaient des anarchistes, les frères Sabaté. Les frères Sabaté, attendez, ils savaient. En Catalogne, ils savent encore qui sont les frères Sabaté dans tous les lieux où ça s'est passé. À Sainte-Céloni, il y a un petit groupe, je ne spoil pas, donc je ne dis pas pourquoi je parle de Sainte-Céloni, mais il y a un petit groupe de gens qui essaient de faire vivre la mémoire de ces libertaires aussi, et qui sont très au courant de tout ce qui s'est passé, qui essaient de faire des derniers trajets, une statue par-ci, entretenir le cimetière. Donc la mémoire, elle est toujours vive. Ensuite, vous avez le côté de la base. En haut de la pyramide, je pense qu'on se pose les mêmes questions qu'après la Seconde Guerre mondiale en France. Ouvrir certains cartons d'archives aujourd'hui, il y a quand même encore des gens qui sont descendants directs, fils, filles ou témoins de personnes qui étaient d'un côté ou de l'autre.
Et qui étaient dans les fameux... comment on les appelait? Les menados? Non, les informateurs.
Les somatens. Donc c'était.
Et qui ont pris du galon et qui ont des positions politiques.
Oui, bien sûr.
Ça expliquerait beaucoup pourquoi ils prennent certaines positions publiques.
Oui, tout à fait. Donc beaucoup de gens n'ont pas forcément intérêt à ce que ça s'ouvre. Et bon, on va voir comment évoluent effectivement les votes côté espagnol, mais ça prend pas forcément la bonne direction.
Non, il y a une porosité entre l'extrême droite et la droite déjà.
Alors, on parle bien de l'Espagne.
Oui. Pourquoi? J'ai un mauvais esprit à ce point-là. J'ai un mauvais esprit à ce point-là. Oh, voyons. Nous sommes sur Radio Libertaire, voyons. J'ai pas... Non. Ne me prêtez pas de mauvais esprit à ce point-là, voyons. Revenons à la... Voilà, revenons à la BD. Sinon, on va se faire taper sur les doigts. Vous dites le serment. Si l'un de nous tombe, l'autre sera là pour le venger et continuer la lutte. C'est tout ce qui compte, tu comprends. Jusqu'au dernier, astia siempre. Les images de Yannick, quand les mots, ces mots-là sont mis, ça prend... Vraiment, ça donne la chair de poule.
Merci, ouais. C'est un passage assez crucial.
Mais c'est, oui, effectivement, c'est assez crucial, ouais. C'est un des passages justement qui m'a été raconté par Elios Sabaté.
Oui.
Qu'on met en scène à Toulouse, pas forcément à l'endroit précis où ça s'est passé, mais à l'endroit précis où les guérillas russes avaient l'habitude de se retrouver clandestinement au pied du phare. Et donc, oui, c'était une question qui revenait souvent quand on discutait avec Elios, c'est-à-dire, mais à la fin, quand ils étaient plus qu'un ou deux, qu'est-ce qu'ils espéraient? Et Elios m'a toujours raconté ça, ils m'ont dit, mais à un moment donné, les deux frangins, ils ont passé un pacte.
Oui.
Ils se sont dit, on y va. Tous les deux, et on ne s'arrête plus. Le deuxième venge le premier qui tombe, et puis on ne s'arrête plus. Et effectivement, ils étaient seuls. Il y a eu un moment où on disait, bah, s'il y avait eu 1000 sabbatés à Barcelone, la ville tombait tout de suite et le reste de l'Espagne se soulevait. Mais on n'a pas eu ces 1000 sabbatés. Effectivement, plus ça allait, moins...
Ils
étaient nombreux, même au niveau des guérilleros, les frères Sabaté, ils y allaient, on met en scène, hein, ils n'hésitaient pas. Donc même dans les groupes d'action, quand ça commence à être les jeunes, une plus jeune génération, ils savent très bien que, oula, on a une opération avec les Sabaté, en général ça saigne, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent. Parce que c'est normal, au bout d'un moment, l'énergie, l'esprit révolutionnaire, c'est tari. Et puis quand vous faites la révolution parce que tout un peuple se soulève, c'est une chose. Quand il n'y a plus que deux ou trois qui luttent, c'est difficile. Et
ce on qui parle explique, de tout ça. C'est ce qui explique que le frère Sabaté dise à l'autre, vous êtes un anarchiste de salon.
Voilà.
Et j'en connais beaucoup.
Ouais.
Je suis méchante, là.
C'était une question que je trouve intéressante aussi dans le récit, de mettre en scène le fait que... il y a des gens qui ont une puissance individuelle de mise en mouvement qui est incroyable et qui est extraordinaire, et on ne l'a pas tous. Et qu'il faut composer avec ça dans la manière de faire avancer les luttes, mais qu'effectivement qu'on n'est pas tous des kikos, quoi.
Voilà. Et se lancer dans la lutte à un certain moment, c'est ce qu'on explique, à un moment où justement Franco a son plan Marshall, la Costa Brava se développe, le tourisme débute et tout ça, ben pour certains jeunes, finalement, ouvrir un hôtel sur la Costa Brava ou autre, c'est plus facile, hein. Avoir le sourire d'un banquier, c'est plus facile que d'entrer en lutte pour 30 ans de sa vie, et c'est pas
ou
forcément condamnable, hein, d'ailleurs, mais par contre... Pour les frères Sabaté et les gens de leur génération, de leur groupe d'action, qui avaient commencé à lutter très tôt, à un moment donné, s'arrêter de lutter, ça veut aussi dire, tous ceux qui sont morts avant moi, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien du tout.
Voilà.
Et ils avaient beau pas croire en Dieu, en ciel ou autre, il y avait forcément quelque part, si je les avais en face de moi, pour leur dire j'ai arrêté de lutter après que vous soyez tombé, non, c'était pas possible. Donc il n'y avait pas d'autre voie, de même des artistes qui meurent sur scène, il y a des guerriers qui meurent les armes à la main. Voilà.
Tout à fait. Alors, on va parler de la présentation à la fin. J'ai trouvé génial, surtout pour les jeunes générations, que vous ayez fait une espèce de... comment ça s'appelle ?
Incarné. La trame chronologique.
La trame chronologique, elle est très bien. Oui. C'est parce que ça permet, une fois qu'on a la trame chronologique, de revenir sur certains passages et de voir comment ils ont été illustrés par Yannick et coloriés par Robin. Les petits cartouches qui renvoient au livre essentiel, c'est une idée magnifique. Et surtout, les remerciements. Alors ça, c'est... Je comprends pourquoi ceux qui sont les héritiers de ce mouvement, quand je leur ai dit que je vous recevais à la radio et qu'on vous recevait à Publico, ils ont été émus. Dans ces cas-là, ils disent rien. Ce sont des gens très pudiques.
C'est leur manière d'être émus.
Voilà, tout à fait.
Okay.
Et je suppose que c'est pareil quand ils vous rencontrent, ils ne vous disent rien.
Non.
Bon. Eh bien, tout est dit.
Voilà.
Merci.
Ben, merci à vous, c'était très chouette.
Merci à vous.
Non, on va remercier Frédéric, sans qui il n'y aurait pas d'émission. L'unique Frédéric, il est unique, il est adorable, c'est un amour, il est tout. Voilà. Merci Hervé, merci Yannick.
Merci à vous.
Alors, donc, merci aux auditeurs qui nous suivent régulièrement. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous, surtout. Merci.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu mes dents, sur vos roues, j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge, les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement, j'ignorais le temps, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisir, Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Merci à toute l'équipe et à Mariama pour cette émission La Rage Dedans. Dans 3 minutes sur Radio Libertaire, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe de Radio Esperanto, votre émission pas quotidienne mais hebdomadaire en Esperanto et en français.
ocho son negociam, ot veninta del corpo che canto la flor, flor de la intervinterni esperan. I la cinvenuce mi, aura grec, aura franca, e canto con mi, persa ma voce e diranta del cor esperan.
Esperanto. Ah. Ah. Arbo. Bo. Bo. Boto. Cioccolato. Do. Do. Dento.
Saluton al ĉiuj. Jes, la mikrofonoj estas malfermitaj. Jes, saluton Marcel, saluton Claudine. Jes, jes, bonan vesperon kaj do ĉiuj alvenas ĝustatempe, ni povas diri.
Iom da prokraso en la serio.
Jes, saluton Claudine. Jes, ti povas alproksimiĝi al iu mikrofono eble al tiu alia.
Ne, salut ĉi tie.
Ne, ŝi ne deziras. Ne gravas, jes, jes, mi akceptas sin. Jes, kaj bonan. Ĉu bone? Jes.
Tre bone,
danke. Jes, jes, jes. Mi esperas, ke la aŭskultantoj fakte aŭdis